qui même pourrait être le plus grand. Et le Seigneur, à qui rien ne pouvait échapper, les retrouve et leur dit « Celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit le plus petit ». Ils étaient préoccupés de ce qu'ils feraient dans le royaume de Dieu, mais le Seigneur va leur dire « C'est pas tout cela, l'essentiel, c'est d'y entrer ». C'est d'y entrer. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur était formel. Vous savez, l'amour de Dieu, lui, est net et formel. Alors, nous allons reprendre notre étude en lisant dans Luc chapitre 17. Chapitre 17 de l'Évangile selon Luc. Nous lirons au verset 20. Chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous allons pouvoir ici méditer sur les deux aspects essentiels du royaume de Dieu. Et ici, le Seigneur Jésus nous met au devant du premier aspect, celui qui est à saisir en tout premier. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans le grec, l'expression est « entos humon », ce qui peut être traduit en effet « au milieu de vous » ou certains traducteurs ont traduit « au-dedans de vous ». Au-dedans, c'est-à-dire dans l'être intérieur ou au milieu de vous. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume qui tient tout des cieux. Le royaume, supprimons même ce terme et remplaçons-le par règne, puisque le grec le permet, Basileia veut aussi bien dire règne que royaume, alors nous disons le règne des cieux, le règne qui tient tous les cieux, est au milieu de vous. C'est une parole importante et essentielle. En somme, au-dedans de vous, cela donne, en la personne de Jésus, au milieu de vous, plutôt, c'est en la personne de Jésus qui est là devant vous, au milieu de vous, ou dans le groupe de Jésus et de ses disciples. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est là. Voilà comment il se manifeste actuellement. Et puis alors, dans la seconde acception, au milieu de vous, cela donne, ce règne est établi à l'intérieur de ceux qui croient en moi, qui croient en Jésus-Christ. Les traducteurs ont des divergences entre eux sur ces deux manières de traduire, soit au milieu de vous ou soit parmi vous. La TOB, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible, porte une note qui est celle-ci. On traduit parfois « en vous ». Mais cette traduction a l'inconvénient de faire du règne de Dieu une réalité seulement intérieure et privée. Pour Jésus, ce règne qui concerne tout le peuple de Dieu est présent en fait dans son action de salut. Et là, il y a une citation d'un d'un autre passage de Luc qui, en effet, corrobore parfaitement cela. Il est à votre portée. Bon, donc, ce traducteur a peur que la traduction en vous aboutisse seulement à l'établissement d'une réalité intérieure et privée. Eh bien, le premier aspect du royaume de Dieu, c'est précisément cela, une réalité intérieure et privée. Et en somme, laissons les traducteurs dans leur choix, de même les commentateurs, et disons ceci, il convient d'associer les deux traductions. Ce n'est pas le seul endroit où nous voyons que deux sens possibles, deux portées possibles d'un texte, loin de s'exclure, s'associent, se conjuguent. Au contraire, il est quelquefois bon de les recueillir toutes deux. On a même des textes bibliques desquels on peut fort bien retirer trois sens, trois portées, quelquefois même quatre, sans qu'elles s'excluent entre elles. Le texte biblique nous permet de méditer souvent très au loin de la lettre même. Le Seigneur est au milieu de nous ou en nous. Christ est le royaume de Dieu venu en chair. L'Évangile établit ce royaume de Dieu, et pourquoi il est dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. L'Évangile conquiert, a pour mission de conquérir les cœurs et de construire l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, le rassemblement, l'union par l'Esprit de tous ceux qui se sont donnés au Seigneur Jésus. Les pharisiens, en posant leurs questions, montraient qu'ils étaient désireux de voir s'instaurer le royaume de Dieu sur la terre d'Israël. Ils n'étaient pas les seuls, même les apôtres partageaient ce désir. Mais ils ne consentaient pas, pour autant, à croire en Jésus qui était là devant eux. Et donc, ils ne voulaient pas s'ouvrir à la réalité spirituelle et présente du royaume de Dieu. Il voulait voir. Ça a été souvent la cause des égarements, même dans l'Église, vouloir voir. Pourtant, nous sommes bien instruits que nous sommes dans une marche selon la foi. Actuellement, c'est la foi qui est le moyen universel dans l'Église, la foi et non la vue. Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons eu l'occasion d'étudier, hier notamment, surtout, le temps où ce sera précisément une marche par la vue, parce que le Seigneur sera là, et la foi n'aura plus de rôle à jouer. L'apôtre Paul nous dit bien dans 1 Corinthiens 13 que la foi, l'espérance et l'amour, ce sont trois choses importantes, magnifiques, qui constituent maintenant une chaîne précieuse, mais la foi et l'espérance disparaîtront, il ne restera que l'amour en effet. Alors, les pharisiens attendaient une transformation politique, mais ils ne concevaient pas la transformation intérieure. Transformation intérieure qui était indispensable, nécessaire, et qui devait venir en premier, et cela, ils ne le concevaient pas, faute d'humilité et de foi. Le Seigneur ne pouvait pas dire aux pharisiens que le royaume de Dieu était en eux. Il était au milieu d'eux, pour eux, c'était la seule acception possible. Et il est certain que l'intention du Seigneur Jésus était donc bien celle-là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le même travers peut fort bien se rencontrer dans les rangs de la chrétienté. Parce que, souvent, nous disons avec facilité et avec enthousiasme oui au règne du Christ, au bonheur annoncé, mais nous disons non à la possession intérieure du royaume et en sa réalité spirituelle. Nous disons non, c'est une façon d'exprimer les choses, c'est-à-dire nous sommes moins prompts, moins portés à cela. Et c'est quelque chose qui constitue un avertissement, car nous devons veiller à ça. Actuellement, il faut fortifier, consolider la présence, la possession intérieure du règne des cieux, du règne des cieux. Remplaçons l'expression « royaume de Dieu ». Elle convient mieux au royaume qui viendra d'une façon concrète dans le temps, qui se verra, qui établira ses structures sur la terre. Mais maintenant, il s'agit essentiellement d'un règne des cieux, du règne. Il faut que le règne des cieux soit en nous. Je vous expliquerai un peu plus loin ce qu'il faut entendre vraiment par là. Nous disons quelquefois non à une vie qui d'ores et déjà soit celle du règne à venir. Le règne à venir doit déjà être établi dans le cœur des chrétiens. C'est ça, la réalité chrétienne. Il doit être établi là. Et si l'on ne vit pas la parole de Dieu, l'on n'est pas fondé à espérer les joies du royaume à venir. Jésus lui-même est le roi. Il est le roi et il est le royaume de Dieu. Il est le royaume, comme il est la vérité, comme il est la vie, comme il est la parole de Dieu. Il est le royaume de Dieu. Le recevoir, en recevant l'Évangile, c'est recevoir le royaume de Dieu. Si donc nous recevons Jésus-Christ, et nous savons que c'est là, je ne dirais pas la démarche chrétienne, mais je dirais le mystère chrétien. Le mystère, le précieux mystère chrétien, l'action de la foi, c'est de saisir et de prendre Jésus. Tout est là. Tout est là. Laissons tout cet enrobage qui nous vient ou des traditions ou de la pensée des hommes qui se complaisent surtout dans le domaine des idées, mais qui ne regardent pas le fait, la réalité, la vérité. La vérité, c'est cela, c'est que notre foi saisisse Jésus-Christ et nous permettre de vivre dans une relation personnelle, intime, vivante avec lui. Notre foi a un grand objet, un premier grand objet, c'est la personne du Seigneur. Le salut, c'est une personne. Lorsque Jésus recommande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, il ne vise pas particulièrement la venue du royaume visible, mais il invite ses fidèles à tendre, soyez tendus, constamment vers une possession intérieure, réelle, toujours plus profonde d'un règne qui vient des cieux. Et qui ne peut être là que si sa présence à lui y est, n'est-ce pas? Si nous avons l'esprit de Christ, nous lui appartenons. Et alors, c'est alors que le règne qui vient des cieux s'établit dans les cœurs. Ce règne apporte la justice de Dieu, il apporte la justice. Nous pensons souvent à la justification, très bien, parce que c'est vrai que la conversion à Jésus-Christ a pour magnifique et heureux résultat cette justification, le pardon des péchés est un fondement, une base irremplaçable, et il apporte la sanctification de l'esprit, il apporte la justification. Mais nous pensons souvent moins à cette justice de Dieu. Il n'est pas tout d'être justifié, c'est bien, c'est nécessaire. Mais quand nous avons une chose, pensons qu'il y en a d'autres aussi à désirer et à posséder. Alors, ensuite, c'est la justice de Dieu qu'il faut rechercher. Il faut tendre vers la justice. Et si nous tendons vers la justice, dans cette parole que j'évoque, le Seigneur nous montre que nous tendrons vers le royaume, c'est-à-dire vers ce règne qui tient tout des cieux. Et le Seigneur nous invite à vivre cette justice, à la vivre. L'évangile n'est pas seulement une doctrine, ce n'est d'ailleurs pas la doctrine qui sauve. La doctrine ne sauve pas. Il y a des gens qui possèdent par le fait de leurs études, possèdent la connaissance de la doctrine, mais qui ne sont pas sauvés pour autant. La doctrine vient ensuite. Elle vient ensuite. Ce n'est pas la doctrine. Quelqu'un peut ignorer la doctrine et puis recevoir au contraire la grâce du salut. Abraham, qui en somme a reçu cette grâce, puisque sa foi lui fut imputée à justice, eh bien Abraham ignorait tout de la doctrine que nous avons aujourd'hui. Elle n'a pas empêché de recevoir cette merveilleuse imputation à justice dont nous parle la Bible. Donc le Seigneur nous invite à vivre cette justice au sein des activités de la vie quotidienne, pas ailleurs, pas dans un enclos, au sein de la vie quotidienne. Et c'est ce qui est merveilleux, chers amis, de vivre la justice de Dieu. J'ai souvent parlé de cette expérience assez particulière que j'ai eu l'occasion de faire dans les Antilles et d'apporter à des gens qui étaient troublés, qui étaient toujours dans le mouvement, dans la contestation, dans la protestation, dans la haine même, de leur parler de la justice de Dieu, étant au milieu d'eux pendant quelques semaines, je leur ai parlé de la justice de Dieu. Et celui qui m'accompagnait m'avait dit, vous savez, vous n'obtiendrez rien d'eux en les sermonnant. Croyez que je voulais seulement les sermonner. En les sermonnant et en leur parlant de la morale. Ils voyaient ça comme une morale. Et cependant, trois semaines plus tard, ce même ami qui était avec moi vient me trouver le matin et à mon hôtel, et puis il me dit, vous savez, je n'y comprends rien. J'ai passé toute la soirée à la brasserie, à Fort-de-France, avec ces gens. Eh bien, ils ne parlent plus du tout comme auparavant. Je les ai entendus discourir sur la justice et s'exhorter l'un l'autre à mettre la justice à tout voir sous le signe de la justice. Alors, je comprends pas ça. Mais je dis, mon cher ami, c'est que quand nous parlons de la justice, c'est la parole de Dieu que nous mettons en mouvement, et cette parole est puissante, et vous voyez, n'est-ce pas, ces gens-là n'étaient pas convertis du tout, n'est-ce pas? Je ne sais pas si peut-être quelques-uns l'ont été plus tard, mais ils ne l'étaient pas à ce moment-là. Et cependant, n'est-ce pas, étaient déjà transformés et avaient transformé leurs pensées et leurs intentions. Pour posséder la vie éternelle, et c'est là la vocation du chrétien, il faut avoir en soi la force de rechercher la justice de Dieu et la mettre en pratique. Chercher, premièrement, la justice de Dieu, la justice et le royaume de Dieu. Ça, c'est indissociable. La justice et le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Non seulement les choses essentielles de l'existence, mais le Seigneur avait une pensée beaucoup plus large que celle que suppose le contexte même. Eh bien, le Seigneur voulait dire toutes choses, tout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, spirituellement, intérieurement, pour vraiment construire en vous une charpente solide du point de vue moral et spirituel, tout cela vous sera donné par le Seigneur. Donc, les réalités d'ordre spirituel du royaume de Dieu doivent être présentes dans un cœur vraiment chrétien. C'est ce qu'exprime l'expression plusieurs fois employée dans le Nouveau Testament, l'expression en Christ, nous l'avons dans les Colossiens au moins deux fois, dans Romains, par exemple, l'épître aux Romains dans son chapitre 12 au verset 5 dit « Nous formons un seul corps en Christ ». Et puis, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Comprenons bien l'impérieuse nécessité d'avoir en nous, en notre cœur, les puissances du monde à venir. C'est une expression que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, les puissances du monde à venir. Il y a un monde à venir, il y aura un royaume, ça c'est le deuxième grand aspect, l'aspect eschatologique du royaume de Dieu. Il viendra. Nous l'avons suffisamment vu dans les textes ces jours-ci, il s'établira sur la terre, nous voyons comment, nous avons vu ce qui en résulterait, nous avons compris la logique du royaume de Dieu par le moyen des textes bibliques. Eh bien, l'impérieuse nécessité maintenant, c'est d'avoir les puissances du royaume de Dieu ou du monde à venir en soi, pour être prêt à l'enlèvement de l'Église. L'un, évidemment, de nos objectifs concernant l'entrée dans le royaume éternel, c'était bien cela, n'est-ce pas, d'être prêt à l'enlèvement de l'Église. Je rappelle ceci, c'est que nous sommes sur la terre actuellement en cohabitation, mettons, ou en coexistence avec le monde. Tous ceux qui contestent, tous ceux qui repoussent, qui ne croient pas, tous ceux qui s'amusent, qui rient, n'est-ce pas? Il y a des émissions où on vous met la vie éternelle, le paradis, l'enfer, et puis toutes sortes de choses empruntées aux Écritures. On vous met ça dans une composition pour faire rire surtout, n'est-ce pas? Et pour s'amuser. Bon, eh bien, nous vivons avec tous ces gens-là. Nous vivons avec les gens qui ne veulent pas supporter la contrainte, si je puis dire, ou plus exactement la discipline de la parole de Dieu. Bon, nous vivons ensemble, nous marchons ensemble, comme Paul a navigué ensemble avec tous les passagers et l'équipage de ce fameux bateau qui a fait naufrage. Eh bien, oui, mais cela ne pourra pas durer. Et le monde est en train de s'enfoncer, si on ne le voit pas. Réfléchissons, écoutons, voyons autour de nous, et je pense que nous le comprendrons. Le monde est en train de s'engouffrer, de s'enfoncer, il descend, si vous voulez, et l'Église, elle, ne peut pas continuer cette marche-là, et il est nécessaire qu'à un moment, elle se sépare. Donc, l'Église va vers une autre direction, vers une autre destinée, tandis que le monde suit la destinée, va vers la destinée que son comportement lui prépare. Alors, il y a donc un enlèvement, et il faut être prêt. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas quelque chose à négliger, pas quelque chose à laisser dans les mots seulement. C'est quelque chose, véritablement, qu'il faut saisir dans sa réalité. La vérité, nous ne cessons de le dire, la vérité est concrète. La vérité de Dieu, la vérité qui ne peut pas changer, dans l'idée de vérité, dans les mots même, dans si l'on va rechercher l'étymologie des termes en hébreu et en grec, l'on voit qu'il y a une idée d'intangibilité, de sécurité. La vérité est inébranlable, c'est la vérité de Dieu. Mais la vérité est concrète. La vérité est faite pour être vécue. Elle ne peut pas rester dans le domaine de l'idée ou de la parole. Un chrétien, disciple de Jésus accompli, a reçu la grâce fondamentale du pardon de ses péchés. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Ou, selon une expression de Jean qui est magnifique, il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Il est régénéré pour vivre une vie nouvelle. Il n'est pas né de Dieu et régénéré pour vivre la même vie, pour vivre une vie nouvelle, une vie de résurrection, car la vie à vivre en tant que véritable disciple de Christ est une vie de résurrection. Ce n'est plus l'autre vie. Même s'il y a un parallélisme temporaire dans les modes d'existence avec les autres hommes. Cependant, c'est une vie nouvelle. Et cette vie de résurrection, elle ne peut être vécue que en Christ. En Christ. Voilà notre expression qui nous rappelle ce texte de Jean dans sa première épître au chapitre 5. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Revenons toujours à ce principe clé, fondamental, avoir le Christ, être uni à lui, vivre en relation personnelle avec lui. Donc, nous dit l'Écriture, alors, celui qui est né de nouveau, celui qui donc est engagé dans cette vie nouvelle, vie de résurrection, parce que Christ est dans son cœur, eh bien, celui-là, il est une nouvelle créature, ce qui peut se traduire aussi une nouvelle création, une nouvelle créature. Voici la traduction de la Bible en français courant, de 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. J'aime assez cette traduction, n'est-ce pas? Elle est nette. Elle est nette. Elle n'est pas équivoque. Une autre traduction qui est celle de Quen, alors plus étendue parce que ça n'est pas une traduction littérale, mais enfin une traduction qui se propose de livrer l'idée avec un petit peu quelques mots de plus pour l'expliquer. Si quelqu'un entre en communication vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé Voici, tout est devenu nouveau. Ah, c'est également très clair. Ce chrétien a donc cessé de vivre la vaine manière de vivre héritée des pères, selon la Bible, et il vit une vie dont les caractéristiques proviennent de les caractéristiques et la force proviennent de la vie du Christ. Il vit une vie donc qui tient tout de la vie du Christ, qui est la vie du Christ. Alors il doit veiller à vivre cette vie-là, il en a la responsabilité. Le Seigneur ne nous ôtera jamais la responsabilité. Ce n'est pas possible, il modifierait notre nature. Le Seigneur ne veut pas modifier le plan créateur qui a été le sien pour l'homme, il veut au contraire restaurer la personne humaine selon ce plan créateur. Et en conséquence, il ne veut pas aliéner, réduire la liberté de l'homme ou sa responsabilité. Ça va ensemble, au contraire, il les confirme. Il nous est bien dit que nous avons été affranchis pour la liberté. Pour la liberté. Parce que la foi ne peut s'exercer que dans la liberté. L'amour aussi. L'amour, alors là, comme le cantique des cantiques nous le montre, n'est-ce pas, ne venez pas, n'intervenez pas quand il s'agit de l'amour. L'amour a besoin d'être libre, entièrement libre. Donc il faut liberté, la liberté, l'obéissance, la soumission également. Alors, ce chrétien va marcher comme a marché le Seigneur Jésus. Et il doit veiller à cette marche, il doit veiller à vivre la vie nouvelle. Il en a la responsabilité, disions-nous. Autrefois, l'Israélite vivait par l'observation pratique des commandements ou des ordonnances du Seigneur. Il y avait déjà cependant un élément surnaturel dans sa vie de fidélité. Par exemple, nous voyons dans le Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y avait donc déjà un élément surnaturel dans la vie de l'Israélite. Cette parole, vous savez que Jésus l'a reprise lui-même à son compte. L'on disait même dans l'Ancien Testament, que votre cœur vive à toujours. L'on disait aussi, observe mes préceptes et tu vivras. Pour la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament reprend, lui, la parole du prophète Habacuc. D'ailleurs, cette parole a été lancée par ce prophète, peut-être 5 siècles avant l'avenue du Seigneur Jésus, précisément à notre intention, à l'intention de l'Église. Et voici cette parole, le juste vivra par sa foi ou par sa fidélité. On peut traduire aussi là des deux manières, foi ou fidélité. Cela revient au même, il faut une foi fidèle. Et Jésus de nous dire dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 57 que vivre, c'est rester en communion avec le Fils de Dieu et avec le Père. Et inversement, vivre, c'est rester en communion. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Celui qui demeure en moi a la vie éternelle. La scène aussi est un signe particulier de cette relation, communion avec le Seigneur Jésus. Je ne veux pas détailler ces choses maintenant, je les mentionne, je les rappelle seulement. Et puis l'apôtre Paul de nous dire, si nous vivons par l'Esprit, eh bien, marchons aussi par l'Esprit. Si nous avons reçu par l'Esprit de Dieu la vie nouvelle, si elle est en nous, si sa puissance est en nous, eh bien alors marchons aussi par l'Esprit qui nous a donné cette vie, marchons par lui. L'Esprit nous a donné la vie, il faut donc aussi qu'il dirige notre marche, notre conduite. S'il nous a donné la vie, c'est lui qui va aussi diriger notre conduite. Donc il ne s'agit pas d'une vie moralisée, mais d'une vie qui soit dans l'abondance. C'est ce que dit l'évangile de Jean. Jésus lui-même nous parle d'abondance. Il donne la vie, et non pas la vie, un peu la vie, mais la vie abondante. Alors que faut-il entendre par abondance et par une vie abondante? Eh bien, il faut comprendre une vie de plénitude, une vie de plénitude telle que la vie de Dieu. Il ne faut pas comprendre une vie plus intense, particulièrement intense, non, une vie de plénitude. Le Seigneur ne se contente pas des demi-mesures, pour lui c'est tout. Soyez parfait comme le Père Céleste est parfait, voilà, il n'y a pas d'autre consigne que cela. Et alors, je voulais vous dire, on ne peut pas vivre deux vies à la fois. On ne peut pas vivre deux vies. Pas plus qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Cela, le Seigneur l'a enseigné, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, il y en aura un vers qui vous pencherez particulièrement, que vous servirez, l'autre sera négligé. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. En général, celui qui est négligé, c'est Dieu. Alors, de même, on ne peut pas vivre deux vies à la fois. Et je voudrais peut-être éclairer un peu plus cette assertion. Si l'on appartient à Christ, il faut vouloir vivre la vie de Christ. Il est un exemple, il est un modèle, il est un conducteur, il est lui celui qui dispense, qui donne la vie, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et le Fils la donne à qui il veut, c'est-à-dire à celui en qui il est. Donc, il faut vouloir vivre la vie de Christ si l'on appartient à ce règne nouveau. Auparavant, c'est la mort qui régnait en nous. Et la Bible est formelle, c'est la mort. Vous étiez mort par vos offenses, c'est-à-dire par l'état de péché dans lequel vous naviez. Vous étiez mort. Le Seigneur Jésus lui-même dit à quelqu'un, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Ce quelqu'un voulait aller à l'inhumation de son père. « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Mais maintenant, ce n'est plus la mort, c'est la vie qui règne. Ou si l'on veut, l'on est entré dans le règne de la vie, par Jésus-Christ, lui seul. En somme, le vrai disciple, il a changé de règne. Je déplace peut-être un peu le sens du terme règne, n'est-ce pas ? Ne voyons plus alors tellement le gouvernement, si vous voulez, d'un roi, mais changeons un peu de sens, prenons le sens qui est celui des expressions le règne végétal, le règne animal. C'est un ordre de choses, un ordre de choses. Eh bien, le vrai disciple a changé de règne. Les arbres vivent dans le règne végétal, les animaux dans le règne animal, et ce n'est pas pareil. Les uns ou les autres ne peuvent absolument pas changer de règne. Un arbre peut-il vivre la vie animale? Un végétal quelconque peut-il vivre la vie animale? C'est impossible. Or, celui qui est né de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, a changé de règne. Il a même changé de filiation. Il a donc changé de règne. Il a été déplacé, il n'est plus dans le règne où il était au début. Il a changé de règne par le pouvoir créateur de Dieu. Évidemment, un végétal ne peut pas devenir animal si cela a supposé devait se produire, il faudrait l'intervention, bien sûr, d'un pouvoir créateur. Eh bien là, c'est par le pouvoir créateur de Dieu que l'homme a changé de règne. Il ne vit plus dans le règne de l'homme animal. Le terme animal a quelquefois été jugé de déplaisant dans 2 Corinthiens. On l'a remplacé par le terme psychique, l'homme psychique. L'homme qui vit uniquement par l'âme et dont l'esprit est absolument étranger, reste étranger à Dieu et à la vie de Dieu. Alors il vit par l'âme, il vit avec les ressources de l'âme, avec les possibilités, les pensées de l'homme, avec l'imagination de l'homme, avec les intuitions que l'homme peut recevoir, mais qui ne sont pas des apports authentiques de Dieu. Puisque l'esprit est fermé, que l'esprit est lui seul, l'œil du corps, c'est une comparaison de Jésus-Christ, c'est-à-dire seul, capable, apte à recevoir, à saisir la lumière d'en haut et à l'introduire dans l'être tout entier. Par conséquent, le chrétien ne vit plus dans le règne de l'homme animal, mais dans le règne de l'homme nouveau, de l'homme spirituel. Il a changé de règne. Il a changé aussi, disais-je, de filiation. Il n'est plus dans la filiation du premier Adam. Il s'est déplacé, il est dans la filiation du second Adam, qui est un esprit vivifiant. Et il ne faut pas que le chrétien, par conséquent, vive en 2 règnes opposés. Je dis cela parce que l'Écriture elle-même nous met sur la voie de ce malheur de chrétiens qui sont appelés chrétiens charnels. Ils sont en partie spirituels, sans ça ils ne seraient pas du tout chrétiens, mais aussi ils ont toujours en eux cette attirance, forte attirance vers les choses de la chair, les choses de l'homme, quand ce ne serait que dans le domaine de la pensée, du raisonnement, et alors ils se coupent de la pensée du Seigneur Jésus. Ils font en somme ce qui est arrivé à ce pauvre apôtre Pierre. Je dis pauvre, le qualificatif lui convenait dans le moment, qui venait d'avoir une révélation sublime. Qui dit-on que tu es, toi, Seigneur Jésus? Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, quelle belle proclamation dans le temps où elle était faite, et le Seigneur Jésus de lui dire, Pierre, c'est pas la chair et le sang, pas l'homme qui t'a fait découvrir ça, pas la chair et le sang qui t'a fait dire ça, c'est mon Père qui est dans les cieux et qui te l'a dit, mon Père. Alors, évidemment, notre apôtre était tout heureux de ça. Quelques minutes après, voilà qu'il entend le Seigneur Jésus parler de sa mort, parler des mauvais traitements qu'on allait lui infliger. Oh, mais alors il est sensible, cet apôtre, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas, voulons pas que ça t'arrive, ça. Voulons pas, c'est l'âme, oh l'âme, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais la parole du Maître est terrible. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont plus les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas, ce déplacement? Alors, il ne faut pas cela. Il ne faut pas. Il faudrait que nous restions spirituels. Pour cela, il faut beaucoup d'attention, de la foi, naturellement, de l'amour, cela va sans dire, mais également beaucoup d'attention. D'ailleurs, la Bible nous recommande l'attention. Beaucoup d'attention. Donc il ne faut pas que le chrétien vive 2 règnes à la fois. Le règne de l'homme, si vous voulez, qui ne connaît pas Dieu, de l'homme psychique, et le règne de l'homme spirituel. Ce sont 2 règnes différents, opposés. Ça n'est pas possible de les vivre ensemble. Alors il faut se décider. Ce n'est pas seulement une question de décision, mais il y a quand même une décision, n'est-ce pas? La foi se sert de la volonté humaine a son plein emploi dans la vie chrétienne. Eh bien, alors la foi, elle, que veut-elle sous l'empire de l'esprit qui est lui-même illuminé? Eh bien, alors elle veut la volonté de Dieu. Voilà son grand désir, la volonté de Dieu. Notre foi veut se conjuguer, se lier avec la volonté de Dieu. Voilà comment l'homme vivra vraiment le règne nouveau, le règne spirituel, et échappera à cette double vie, la vie dans deux règnes, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Il faut qu'il vive en homme spirituel dans le règne nouveau. C'est cela la foi. Vivre selon l'esprit, être conduit par l'esprit de Christ, voilà les expressions par lesquelles il nous est signalé que nous avons à vivre cette vie nouvelle et s'attacher à ces consignes, précieuses consignes-là, voilà la foi. Et quand le Seigneur recommande, et nous recommande cela parce que il nous prévient que nous ne pourrons pas connaître à l'avance le jour et l'heure de son retour, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, alors il nous recommande de veiller. Eh bien, il entend nous maintenir dans la vie. C'est pour nous maintenir dans cette vie spirituelle, dans ce règne nouveau. Et c'est pourquoi aussi il nous dit « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez, attachez-vous, restez, demeurez », c'est habiter, mais d'une façon continuelle, sans coupure, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il a ajouté « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sèche comme le sarment ». Sur une vigne, il sèche et il est jeté dehors. Jean 15, verset 6. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Et ils brûlent. Cela n'est pas la voie, évidemment, du salut. Alors, allons prétendre participer à l'enlèvement, à l'entrée dans la salle des noces, selon la parabole des vierges. Allons prétendre cela quand nous sommes un sarment qui ne reçoit pas la sève du cep et qui sèche. Ce n'est absolument pas possible. Être ce que Jésus a appelé le bois sec, par opposition au bois vert. Allons donc nous présenter ainsi à l'entrée de la salle des noces. Si nous sommes du bois sec, ce n'est pas possible. Si nous sommes un sarment qui a séché, on ne peut pas se présenter. Être prêt, c'est donc être le bois vert, le sarment qui porte vraiment du fruit. Il arrive pourtant que la lassitude nous gagne, que la négligence s'installe en nous, que le découragement ne soit pas surmonté, et voici que la vie nouvelle, alors, cesse d'être abondante. Elle cesse d'être abondante en nous, elle s'étiole. Alors, les pensées, les intentions charnelles reviennent, les raisonnements de la sagesse humaine s'imposent à nouveau et combattent. Ils n'ont de cesse qu'il n'ait combattu les principes évangéliques. Et alors, c'est le recul, le retour en arrière. C'est comme un arbre greffé qui s'entourerait de rejets sauvages. Voilà la situation du chrétien qui ne veille pas. Il faut bien voir le côté négatif, n'est-ce pas, pour mettre en lumière le côté positif. Alors nous disons non à cet énorme danger. Nous voulons donc, comme le Maître nous y invite, veiller, entretenir la communion, aller même plus loin nous appliquer, appliquez-vous, dit l'Écriture, nous appliquer à affermir notre vocation et à être trouvés sans tâche et irrépréhensibles dans la paix, sans tâche et irrépréhensibles. Et si l'Écriture nous dit cela, c'est que c'est possible. C'est une chose tout à fait possible. Elle est à notre portée. Ne la soumettons pas à l'évaluation de notre cœur naturel. Parce que là, alors nous dirons, oh ben non, c'est pas possible. Il y a bien un grand personnage religieux qui, avec lequel je m'entretenais une fois de vérité, et qui m'a dit, mais monsieur, on ne peut pas avoir la vérité. On peut pas, on peut pas. Vous en avez peut-être un peu. Moi j'en ai aussi un peu. D'autres en ont un peu. Chacun, nous en avons un petit peu. Bon, on ne peut pas avoir la vérité. Et je lui dis, écoutez, monsieur, je vais vous étonner. Moi, je vais vous dire que j'ai la vérité. Ah, évidemment, je sais ce que vous allez penser, n'est-ce pas? Quel présomptueux, n'est-ce pas? Quel orgueilleux je suis. Bon, si vous le voulez. Mais le Seigneur Jésus a bien dit, lui, nous avons la pensée du Christ, et je ne pense pas qu'il ait été orgueilleux. Je dis que j'ai la vérité, parce que j'ai Jésus-Christ. Si j'ai Jésus-Christ, si j'écoute Jésus-Christ, si je le suis, ce ne sont pas mes pensées que je suis, ce ne sont pas mes évaluations. Ce ne sont pas mes raisonnements qui me conduisent, mais c'est Jésus-Christ, sa parole. Je lui demande d'ouvrir, de m'ouvrir l'esprit pour toujours mieux pénétrer sa parole. Alors j'ai la vérité, j'ai la vérité. Quand Dieu nous dit quelque chose, n'est-ce pas, et l'appuie par son esprit, c'est bien la vérité que nous avons. Ce n'est pas une demi-vérité, ce n'est pas une vérité atrophiée. C'est la vérité, donc c'est possible, et nous pouvons être trouvés sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. On a souvent commis une énorme erreur dans la compréhension des textes. On s'est dit quelquefois, moi j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été passé de la mort à la vie, c'est fait, c'est fini. Je l'ai même lu dans un ouvrage. J'ai lu cette forme-là, par exemple, dans l'ouvrage de René Pache sur le retour du Seigneur Jésus. Ce sont des mouches qui font ce bruit. Alors, on a souvent parlé comme ça au passé. Et on dit, je suis sauvé au présent. Au passé, on dit, j'ai cru, j'ai été passé de la mort à la vie, c'est bien, je ne viendrai pas en jugement, je suis sauvé. Cependant, il n'est pas dit, celui qui a cru sera sauvé, il est dit, celui qui croit. Présent, c'est un présent, la foi est quelque chose qui demeure, qui doit être constant. Comparons la foi en sa nature au sens physique, comme Jésus l'a fait, il l'a comparé à un œil, une oreille, même au goût, à la saveur, au toucher. Eh bien, ces sens physiques sont innés, ils sont liés au fait que nous avons reçu la vie. Eh bien, de même, la foi est un sens inné et qui est lié à l'existence d'un esprit en nous. Je rappelle cette parole, en créant l'homme, Dieu a formé en lui un esprit. Alors, c'est la foi est là, le moyen de la foi est là, la foi est un sens spirituel, inné. L'œil n'a pas besoin d'une éducation pour voir. L'oreille n'a pas besoin non plus de cette éducation pour entendre. De même la foi, elle reconnaît son objet. La foi reconnaît. Pourquoi certaines personnes qui entendent l'Évangile, par témoignage ou par prédication, peu importe, qui entendent l'Évangile, immédiatement se sentent saisies. Pourquoi y a-t-il un élan déjà qui s'amorce en elles? Pourquoi ce trouble dans le cœur, un trouble heureux? Pourquoi vont-elles, si elles n'arrêtent pas ce mouvement, si au contraire elles lui laissent sa liberté, pourquoi vont-elles s'attacher au Seigneur Jésus-Christ qui, comme Pierre le dit, elles n'ont jamais vu, Pourquoi cela? Pourquoi vont-elles croire? Pourquoi vont-elles l'aimer? Pourquoi sa parole va-t-elle les rassurer intérieurement et faire naître en eux une joie nouvelle? Pourquoi? Parce que la foi a trouvé son objet. La foi a trouvé son objet. La foi reconnaît son objet. N'a pas besoin de faire des études sur les religions et de montrer la différence des religions avec le christianisme qui, lui, n'en est pas une. C'est pas la peine. La foi reconnaît son objet. La foi est avide, elle s'empare de la vérité. Qui est son domaine? La vérité, c'est son domaine. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui aime la vérité écoutera sa parole, écoutera ce qu'il dit. C'est immanquable, cela. Ainsi, et je termine de cette manière, se tenir prêt et être celui que les anges moissonneurs dont nous avons parlé joindront au rassemblement des élus, eh bien, cela consiste à être trouvé en Christ, selon l'expression de Paul, avec la justice et qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Bien naturellement, une foi qui se maintient et qui progresse même, une foi qui retient la justice, une justice qui est dans le cœur et dans le déroulement de la vie quotidienne, une foi qui entretient le règne nouveau en soi, voilà ce en quoi consiste être prêt. Tenez-vous prêts, nous a dit le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a entendu dire et ce que nous allons recevoir avec reconnaissance maintenant. Amen. Amen.